Les exploités, les dominés, les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les maltraitances. Seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce. De la rationalité du capital, la globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout, on ne la considère pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants, le vampire. Il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Je vous propose de vous retirer, maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions. Et vous retirez sur le côté, gentiment. Monsieur, comme ça, il n'y aura pas de violence, en tout cas pas de
inconvénient. J'attends les ordres.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine, sur l'écho des Garrigues, Montpellier, Canassule à Toulouse, Radio Primitive sur Reims, c'est quand vous voulez, sur le site de l'OC Libertaire. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors ce soir, on est en présence de Pat. Pat, est-ce que tu nous entends ? Allô ? Normalement, nous sommes en ligne avec une copine du Val de Souza. Ça devrait pas tarder, donc je sais pas, on va peut-être résoudre le petit problème technique. Je pense qu'on peut peut-être faire, nous, une petite introduction et voir un petit peu comment on reprend les choses. Donc,
oui, ce week-end, il y avait une nouvelle manifestation importante dans le Val de Souza. On vous en a parlé plusieurs fois. Les dernières périodes importantes, c'était pendant l'été, au mois de juillet en particulier, où il y avait toute une zone qui était occupée par les antitaves, qui s'appelle la Maddalena, qui a été reprise très très violemment par les forces militaires et policières. Et cette fois-ci, dans un contexte assez tendu au niveau italien, puisque récemment il y avait eu des mobilisations à Rome. Il y a le ministre qui avait menacé toute manifestation de stigmatiser les violences, de menacer les organisateurs de manifs à payer en cas de dégâts. Je crois que les organisateurs des manifestations, disait ce fameux ministre, devront aussi verser une garantie financière pour obtenir le droit de manifester et paieront la casse. Donc en fait, ça c'est le contexte qui fait qu'à Rome, tout dernièrement, là, il y a eu le 15 octobre une manifestation importante. Ce ministre avait stigmatisé donc plus de 3000 personnes. Hein, c'est 3000 personnes qui s'étaient affrontées à la police de Rome, qui avait chargé les manifestations avec des chars et des canons à eau. Alors là, on est en Val de Souza, dans la région de Chiomonte et de Iaglione, je ne sais pas si je prononce bien. Et en fait, il y avait un rassemblement, pacifique. Je pense qu'il y a aussi de la stratégie là-dedans, de la part du mouvement, qui avait pour objectif d'attaquer la zone rouge, enfin d'attaquer entre guillemets la zone rouge, puisque là on n'était plus dans le climat du mois de juillet, ni de ce mois d'août, mais symboliquement d'établir un rapport de force avec ces forces policières et militaires qui étendent leur zone grillagée, leur emprise sur le site. Alors Pat, tu es de nouveau avec nous ?
Pat, est-ce que tu nous entends cette fois?
Si,
ah,
je vous entends.
Parfait. Bon, donc, on a eu un petit problème technique, on a été coupé juste en début d'émission. Jean-Noël vient de faire un petit récapitulatif, donc je te laisse reprendre.
Oui, alors je disais, Pat, que vous avez annoncé cette manifestation, cette grande mobilisation. Tu nous diras après la participation importante, sans doute, sous le signe de reprendre un peu le terrain, du moins symboliquement, puisqu'en fait, on a déjà expliqué plusieurs fois qu'il y a une occupation de l'ensemble de la vallée qui est assez extraordinaire, quoi.
Ah oui. C'est vraiment une occupation militaire qui n'a absolument pas un rapport avec la gravité de la situation. Je vais pas saluer à tout le monde.
Mais nous, on t'a pas salué non plus.
D'accord. Mais je vous remercie pour cette occasion parce qu'on peut expliquer un peu la situation, que c'est vraiment quelque chose de... on n'a même pas le mot pour expliquer vraiment ce qui se passe. Alors, tu as parlé de la manifestation d'hier et elle voulait être une action de désobéissance civile, c'est-à-dire absolument une action non violente. Notre objectif, c'était d'aller jusqu'au les clôtures, parce que je dois dire avant qu'il y a un grand territoire qui est complètement le périmètre de ce territoire est fermé par des clôtures doubles en plus, pas seulement une, double. Et vous m'avez écouté?
Oui, on entend très bien. Ah, très bien, oui, on est là.
Il y a double clôture. Et dedans, il n'y a pas le chantier. Tous les médias, tous les journaux, les journalistes, les radios, télévisions, ils disent que le chantier, il est parti, les travaux, ils sont partis. Mais ce n'est pas vrai du tout. Dedans, il n'y a absolument pas... il y a deux, trois ouvriers qui ils travaillent pas vraiment, vraiment. Et c'est plein de policiers, carabiniers, gardes de finances, c'est pas comme c'est en français, mais des militaires aussi. On a les militaires dans le territoire. Tout l'endroit, Chiomonte, Giaglione, sont militarisés, parce qu'ils sont les militaires qui contrôlent, qui entrent, qui sortent. Et c'est quelque chose de vraiment incroyable. Il faut y être pour croire qu'est-ce qui se passe vraiment.
Oui, alors il faut expliquer que... Oui, non, juste, je voulais dire que les militaires, on l'avait déjà évoqué, mais ce sont des corps spéciaux des chasseurs alpins, puisqu'on est en zone de montagne, et qu'ils ils parcourent la montagne pour capturer éventuellement des manifestants, quoi.
Oui, ça, c'était surtout cet été. Dans les derniers jours, pas plus beaucoup comme ça. Les derniers trois jours, vu qu'on faisait cette manifestation, ils ont commencé à circuler dans le bois et prendre les documents de tout le monde qu'il va se promener dans le bois, parce que c'est pas un bois. On a le droit de se promener dans le bois. Et prenait le document, il prenait les personnes, il les tenait deux, trois heures pour déranger.
Oui, oui. Prendre ce qu'on appelle prendre l'identité.
Oui, prendre l'identité. Oui. Et deux, trois heures, aussi cinq heures pour prendre l'identité. Et après, il te laissait partir tranquillement. Mais c'était quelque chose de... pénible, parce que tu vas faire une promenade tranquille à ramasser les châtaignes,
oui.
Châtaignes, et c'est vraiment quelque chose qu'ils font pour déranger la population, pour faire changer un peu idée sur être des militants de quelque façon.
Pour faire peur, oui, pour intimider.
Pour faire peur, surtout, oui.
Alors, on s'était dit que peut-être ça valait la peine que tu nous réexpliques un petit peu Ces derniers mois et peut-être même ces dernières années, tu voulais reparler un peu des raisons de ce chantier, il me semble. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet?
Ben, je peux partir de cette année, oui.
Oui.
Ben, juste deux mots sur la signification de cette grande œuvre.
Oui.
Que dans la vallée de Souza, et on le veut pas parce qu'on a bien fait beaucoup d'approfondissements, des études particulières et bien profondes pour comprendre si c'était vraiment nécessaire, comme il nous disait, ou c'était quelque chose d'autre. Et dans toutes les années que la lutte du peuple, parce que c'est vraiment une lutte du peuple, celle-là de la Val de Souza, et on a compris que c'était quelque chose d'absolument pas nécessaire, et que tout ce qu'il nous disait pour nous convaincre à croire qu'il nous faisait, nous aurait fait beaucoup de travail, beaucoup de bien-être pour nous. Et on n'a pas cru, on a étudié toutes les situations et on a vu que n'était pas comme ça. Alors, on a commencé cette lutte populaire qui se passe depuis 22 ans.
C'est 22 ans, oui.
22 ans, oui. Et dans les années, il a toujours augmenté la participation. Et on a fait vraiment beaucoup d'initiatives et toujours pacifiquement. Parce qu'on est des personnes pacifiques. Mais plus le temps il passait, et plus les autres, c'est que nous on demandait un confront. On demandait de parler, et ils ne voulaient même pas parler. Et on est arrivé au point où ils ont dit, bon, c'est la Val de Suse, c'est un tout petit pays qu'il casse le projet du gouvernement et ils doivent seulement rester en silence, ils peuvent plus dire rien, désormais ils le décident et ils doivent seulement accepter cette décision.
Oui.
Et nous, on a commencé on a occupé l'endroit, le terrain où il aurait dû commencer le chantier.
Mm-hmm.
Et on a fait quelque chose de fantastique, je crois que ça a été fantastique. On a fait la libre République de la Maddalena.
Oui.
C'était vraiment quelque chose de très très riche, où il n'y avait pas de l'argent qui circulait, mais c'était la richesse de la partager la vie ensemble. C'était quelque chose de vraiment émotionnant. On a tenu la libre République de la Maddalena pendant 39 jours.
Mm-hmm.
Et ça a été quelque chose de l'émotion d'être ensemble, d'être unis, je n'ai pas vraiment les mots pour expliquer ça, mais ça a été quelque chose de beaucoup important. Il est arrivé personne du monde par toute l'Italie et aussi de la France, de l'Espagne, partout, vraiment partout. Et ça, il nous a donné vraiment l'idée qu'on était de la côté juste pour dire la notre idée.
Oui.
Et ça a duré 39 jours.
39
le
jours.
Le 27 juin, la police et tous les militaires, ils ont fait, c'est pas le mot français, en italien c'est sgombero, ça veut dire qu'ils sont entrés avec la force.
Oui.
Entrés avec la force.
Oui, ça c'était au mois de juin de cette année.
Oui, au mois le 27 juin de cette année.
Oui.
Et ils ont forcé tout ce que nous avons fait dans plus qu'un mois. Et mais pas seulement ça, ils ont vraiment fait quelque chose de terrible parce qu'ils ont commencé à sparer, on dit, les lacrymogènes.
Oui, à tirer, tu veux dire, des lacrymogènes.
À tirer sur les jeunes, sur les vieux, sur les... sur tout le monde, et il tirait sur l'homme, pas seulement pour faire dégager les personnes, mais il tirait pour blesser.
Oui.
Et c'est quelque chose, ça a été vraiment une chose incroyable, terrible. semblait être à la guerre.
Mm-hmm.
Et après le 27 juin, ils ont fait toute cette clôture sur un grand, grand périmètre,
oui,
où ils ont dit que là, il allait commencer le chantier. Mais ça, c'est pas vrai. Parce que le chantier, le vrai chantier où il devrait commencer, si un jour ils arriveront à commencer, c'est d'un autre côté. C'est pas là où
c'est
ils
pas
ont
cet endroit.
Pas sur le même endroit.
D'accord.
C'est prêt, c'est lit, c'est prêt. Mais c'est pas cet endroit-là. Parce que le vrai endroit, ils n'arrivent pas à le prendre encore parce que ils n'ont pas tous les papiers bureaucratiques encore finis. Ils ont encore beaucoup de passages bureaucratiques parce que nous, dans les années passées, on avait acheté en plusieurs, vraiment beaucoup, beaucoup de monde, on avait fait un achat de terrain collectif.
Oui.
Et alors, un tout petit terrain de 1000 mètres carrés, on l'a acheté en 500 personnes, chacune un mètre, deux mètres chacune.
Mm-hmm.
Alors, pour la bureaucratie, c'est très très long de faire
les expulsions.
Esproprio.
Oui, les expulsions.
Expropriation.
Les expropriations. Oui. Oui.
L'expropriation. Et tout ça, c'est même absolument pas encore commencé. Mais ils disent que le chantier a déjà commencé, mais c'est pas vrai.
Oui,
oui, justement, Pat, moi je voulais revenir sur un élément qui nous est donné. Qui nous a été donné pendant l'été, pendant le mois de juin. Il s'agit du ministre de l'Intérieur, Roberto Maroni, un sinistre de la Ligue du Nord, qui disait qu'en fait, je ne crois pas que les gens qui s'opposent réussiront à arrêter ce chantier. Ils ne pourront pas le faire parce que cela reviendrait à causer de très graves torts aux générations futures. On entend le langage, hein. Surtout, cela voudrait dire, comme il a été calculé, faire perdre des points de PIB, hein, de produit intérieur brut, au Piémont, dit Maroni. Et donc, avec des critères de type écologiste. Alors, on voit là les enjeux. En fait, il dit également que si les travaux ne sont pas engagés, et tu viens de nous dire que les travaux ne sont absolument pas engagés,
non,
ça ferait perdre l'argent, hein, ça on l'avait évoqué également, un argent très, très important. Et alors, ceci pour dire, il ajoute aussi, chaque milliard dépensé produit 1000 postes de travail. Donc on est vraiment dans la
fantapolitique.
Dans la phrase, quoi, dans l'idéologie, dans le discours, mais c'est édifiant. Mais ce qu'il y a de plus inquiétant, à notre sens, c'est qu'il essaye de faire une fracture au sein du mouvement en isolant les gens.
J'ai pas compris.
Il essaye de fracturer le mouvement,
de casser.
Ouais, ouais, ouais.
Le mouvement notave en pointant du doigt ceux qui résistent et ceux, bon, parce que tu l'as dit, quand il y a eu l'occupation, la reprise très violente par l'armée et la police, il y a des gens qui se sont défendus. Ça me paraît naturel. Et ce ministre et le discours des politiques consiste à accuser les gens qui se défendent, quoi, la résistance, quoi. Pour nous, la résistance, elle est légitime. Et cette résistance, elle prend différentes formes. Aujourd'hui, hier, elle était pacifique et symbolique, mais à d'autres moments, il peut y avoir des affrontements. D'ailleurs, au mois de juillet, je crois que vous aviez fait un texte où il était marqué au début de ce texte, nous sommes tous coupables, et à ceux qui considèrent le mouvement notave comme un repère de brigands, vous aviez répondu, nous sommes tous coupables. Et en finale de cette assemblée générale, vous aviez déclaré, nous sommes tous des black blocs. C'était une forme de réponse à cet État qui veut à tout prix criminaliser la population et au-delà de la population, puisqu'il y a des gens qui viennent de toute l'Italie,
ouais,
dans ce combat.
Oui, c'est le jeu qu'ils font toujours et toutes les fois qu'il y a quelque chose, quelque lutte contre l'État. Et c'est le jeu de faire les bons et les mauvaises.
oui.
de casser vraiment en bon et mauvaise. Ils ont essayé de faire ça avec le mouvement Notave, mais ils ne sont pas arrivés à le faire parce que vraiment, ce n'était pas comme ils disaient. Vraiment, il y avait des jeunes que, comme dans la manifestation de Rome, ils étaient vraiment fâchés, complètement, totalement fâchés. Et c'est possible que quelqu'un qui est vraiment fâché, il lance quelques pierres, c'est pas quelque chose de contre des militaires qui sont, comment on dit, qui sont aiguisés comme des robots. Et oui. Il lance sur l'homme les lacrymogènes pour blesser. C'est normal qu'il y a quelqu'un jeune ou pas jeune qui tire quelques pierres. Mais c'était sur 60 000 personnes, il y avait 100, peut-être 150 jeunes ou pas jeunes qui ont lancé des pierres contre la police. Et tout ça est passé comme si tout le mouvement il était Black Bloc. C'est pour ça qu'on a dit on est tous des Black Bloc. Tous on est des Black Bloc parce, mm-hmm. parce qu'on a tous le même bout d'obstacoler cet chantier, cet ouvrage. Et en plus, Maroni, le ministre Maroni, que c'est quelqu'un de vraiment dangereux, je crois, pour la politique italienne, parce qu'il continue à dire que nous, on essaye de provoquer la morte de quelqu'un.
Ah.
Il est arrivé à dire ça, ça va très bien, que c'est pas comme ça, que pour mon expérience que j'ai vue dans ces derniers mois, ces derniers mois, j'ai vécu plus à Chiomonte et à Giaglione que chez moi. Et j'ai vu vraiment une violence gratuite de la côté de la police et tous les autres. Hein, parce que, je ne sais pas comment expliquer, mais quand on arrive, alors, pour faire la désobéissance civile, nous on faisait des actions presque pas tous les jours, mais presque tous les jours, pour déranger, pour lui faire comprendre qu'on ne veut pas cette clôture, on ne veut pas cette militarisation de territoire. Et on lui disait, presque tous les jours, on faisait quelques actions pour lui dire, quelquefois, quelqu'un, je ne sais pas, il tirait quelques pierres, mais absolument pas, c'est pas notre règle. Et il tirait de suite, il tirait sur l'homme. Alors, c'est vraiment de la violence, parce qu'on ne peut pas mettre voisine une pierre contre un fusil qu'il il tire sur l'homme.
Mm.
Et en plus, oui, cette chose de casser le mouvement, bonne et mauvaise personne, ici ne marche pas. La différence de notre mouvement sur les autres, c'était que les autres mouvements, peu à peu, ils se sont vraiment divisés parce qu'il y avait cette dynamique. Mais avec nous, pour le moment, il ne marche pas du tout parce qu'on est très, très compact dans notre idée. Et c'est pas un choix idéologique, c'est ça que c'est important, parce que tous les politiques, les journalistes, les télévisions, ils nous disent qu'on est on est un mouvement idéologique. Mais c'est pas vrai. C'est la démonstration que c'est pas vrai, qu'il y a vraiment tout le monde le plus différent. Il y a l'homme de droite, l'homme de la Ligue, l'homme de gauche, c'est pas quelque chose de politique, c'est vraiment quelque chose de matériau, c'est une lutte du peuple, et c'est ça qui fait peur, c'est vraiment ça, parce qu'ils savent très bien qu'ils n'arriveront jamais à faire cet grand ouvrage, parce qu'ils sont pas là, il n'y a pas l'argent, même l'Union européenne, il a dit que ils sont d'accord que l'Italie il doit faire cet ouvrage. Mais si ils décideront de nous donner l'argent, ce sera presque pas le 10% de l'entier...
De l'ensemble des travaux.
De l'ensemble qu'ils servirait. Mais le 10%, ça fait presque 2 milliards d'euros sur 40 milliards, même pas le 10%, le 5%, parce que c'est prévu que ça peut-être coûterait 40 milliards d'euros réaliser ce grand ouvrage. Et c'est quelque chose de... c'est la honte, parce qu'ils vont fermer les hôpitaux parce qu'ils n'ont pas l'argent, ils vont fermer tous parce qu'il n'y a pas l'argent, et pour quelque chose qui peut-être marchera entre 30 ans, ils vont mettre l'Italie vraiment en genoux.
Alors justement, quelles sont les forces politiques et industrielles qui ont intérêt à ce que le chantier soit fait, quoi, que le projet passe en force? J'ai aperçu un document, malheureusement je n'ai pas pu le déchiffrer, mais ce document analyse les différentes personnalités politiques qui appartiennent de près ou de loin à la mafia et qui ont des intérêts évidemment personnels à ce que le projet soit fait, parce que eux, ça leur fait beaucoup d'argent, quoi. Est-ce que tu as des éléments là-dessus un peu tangibles, parce que ça fait partie des dénonciations que vous avez menées, et notamment pendant l'été, quand on s'est rencontrés. Oui. Il y avait une entreprise de Souza qui était déserte, et nous avons manifesté devant cette entreprise au cœur de Souza.
Si. Alors, les intérêts politiques, ils sont vraiment, ils vont de la gauche jusqu'à la droite. C'est le premier qu'ils ont proposé cet grand ouvrage à la fin des années 80. Arrive à la fin des années 80, c'était une partie de gauche. Et il faut dire quelque chose. Il faut dire que c'est un système pour prendre, je dis un mot simple, pour prendre de l'argent de l'État d'une façon facile, c'est-à-dire avec les intérêts des banques, parce qu'ils sont partis en disant c'est un travail très important, c'est quelque chose qui portera un bien-être pour tous, et seront les entreprises privées qui mettront l'argent. Mais aucun privé, il n'y avait jamais eu quelque privé qui l'a fait, qu'il avait envie de participer à ce projet. Alors, pour trouver l'argent, ils doivent demander l'argent à la banque. Et la banque, normalement, il demande les intérêts. Le truc pour colléguer le fait que la mafia, oui, en fait, c'est juste dans ce passage, parce que les intérêts sont tellement hauts, tellement incroyables, que il y aura beaucoup de problèmes jusqu'aux les années 2060.
Oui.
2060. Et ça, c'est une déclaration de la Corte costituzionale, c'est c'est quelque chose de l'État. C'est
une organisation de l'État.
Oui.
C'est un petit peu comme la Cour des comptes en France.
Ah oui, la Cour des comptes, c'est ça, exactement. Et je voulais dire, respect à la liaison avec la mafia et la malgestion de l'argent de tout le monde, c'est juste là le truc. Parce que dans ce grand ouvrage en Italie, il y a la possibilité de pas faire tous les passages bureaucratiques. Ils disent, cet ouvrage c'est d'intérêt national, alors on peut le faire d'une façon qu'il ne passe pas par la route normale, passe pour une route plus vite.
Oui.
Et dans cette, je parle les mots vrais, mais j'espère de me faire comprendre, parce que ils prennent cette façon de faire les travaux. Ils n'ont pas besoin de faire tout le document sur la sérieté de l'entreprise qui va travailler. Non, il s'appelle l'appalto. C'est pas comme on dit en français. J'essaie de le trouver tout de suite. Normalement, pour faire ces grands travaux, il y a
Tu veux dire que habituellement, pour faire des travaux, il faut faire un appel à plusieurs entreprises.
Un appel public.
C'est ça.
Un appel d'offres.
Voilà. L'entreprise qui fait pour le mieux et pour le moins cher est choisie. C'est ça que tu veux dire? Et donc,
dans cet grand ouvrage, ils ont décidé de faire plus vite.
Oui, c'est-à-dire ils font l'économie de ça.
Mais ils vont dire, sera toi à faire le travaux. In Val di Susa, c'est passé comme ça.
Oui.
Ils ont, pour faire seulement cette clôture, que c'est pas le vrai travail, mais c'est les clôtures pour le moment.
Oui.
Ils ont donné le travail à une entreprise qui a eu déjà beaucoup, beaucoup de problèmes avec la justice pour corruption, pour... parce qu'elle était liée vraiment à la mafia.
Oui.
Et ça, on le savait, tout le monde le savait, parce qu'elle avait déjà eu de condamnes pour cette chose.
Oui.
Et toutes les deux entreprises, ils avaient déjà eu beaucoup de problèmes pour participer à des choses de mafia.
Mm-hmm.
Parce qu'il n'y avait pas cet appel, il n'y a pas eu aucun appel. Ils ont pris deux entreprises, ils avaient dit, on sera très très clair, il y aura tous les appels très évidents. Hein? Bon, la première fois qu'ils ont commencé le travail, ils ont pris de suite deux entreprises qu'ils avaient de précédentes sur la mafia.
Oui.
Et nous, on devrait subir tout ça, absolument pas. Et en plus, je voulais dire encore une chose. Hier, il y a eu une émission sur une télé italienne où la journaliste, c'est vraiment quelqu'une de particulière, c'est vraiment sérieuse, c'est une vraie journaliste. Elle dit les choses plus vraies qu'elle peut les dire.
Oui.
Et il a demandé à Cota. Cota, c'est le président de la région Piemonte. Il lui a demandé direct, mais pourquoi serve le TGV en Val di Susa? Il ne savait pas répondre. Il a dit quelque chose, sans rien dire, et à la fin il a dit. Parce que psychologiquement, il nous rapproche à l'Europe.
Ah.
40 milliards de lire pour nous approcher à
De l'Europe, psychologiquement.
Pour nous approcher à l'Europe. Ça, c'est la réponse de le responsable de la région Piémonte. Bon.
C'est édifiant.
Oui.
Oui. Alors justement, tu parlais d'hier et il se trouve qu'hier vous avez donc manifesté. Tu me disais que tu étais très contente parce qu'il y avait eu beaucoup de monde.
Oui. Beaucoup de monde, même si tout à partir de Maroni, le ministre dont on parlait avant, et Cota, le président, ils ont fait des appels en disant. Restez à la maison, restez tous à la maison, ils n'y allaient pas parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de dangers, il y aura beaucoup, beaucoup de black blocs, ils feront la guerre. Ils ont dit plein de choses et à la fin, rien s'est passé parce que vraiment, normalement, nous, on fait des manifestations pacifiques. Hier, on a pris pas les tisoirs, mais pour couper les réseaux.
Des cisailles.
Hein?
Des cisailles pour couper le grillage.
Oui.
Voilà.
Le grillage, merci. Oui. Et ça, parce qu'on avait dit très clair qu'on aurait fait ça.
Oui.
Rien d'autre. Avec nos visages bien...
Découverts.
Découverts.
Oui.
Les mains aussi avec seulement...
La pince à la main.
Ouais.
Oui.
Et ça, on l'a fait.
Oui.
Et on était beaucoup. J'ai pas eu le temps de voir quelque chose, combien de numéros ils ont dit, mais je crois qu'au moins 20 000 personnes il y avait.
Oui.
En plus, ils ont fait beaucoup de postes du bloc, ils ont bloqué beaucoup de voitures qu'ils montaient.
Oui.
Et on aurait pu être bien plus encore.
Oui.
Mais c'était vraiment émotionnant parce que tout le monde, il est passé par les sentiers, les bois, et il y avait un fleuve de personnes très colorées, contentes, parce qu'on était vraiment contentes d'être arrivées à faire ça.
Oui.
C'est vraiment très bien passé.
Ce que tu m'avais dit quelques jours avant, c'est que depuis plusieurs jours, justement, la police avait bloqué sur plusieurs routes l'accès, oui. Justement, à... Est-ce que la Baïta Clarea se trouve sur le territoire de la République de la Madeleine?
Se trouve juste... oui, on peut dire ça.
Voilà.
C'est presque... oui. Il y a 500 mètres de la Libera Repubblica della Maddalena, oui.
D'accord.
C'est dans le même endroit.
Bon. Ouais. Et donc, en fait, si j'ai bien compris, la Baïta n'est pas encore dans le périmètre fermé par la police avec le grillage, mais juste en dehors de ce périmètre.
Exact.
C'est ça.
Oui.
Mais c'est un périmètre qui est très grand, parce que ici, on s'imagine pas, mais je crois que c'est un périmètre... où vous n'avez plus le droit d'accéder parce que c'est grillagé,
oui.
Mais sur plusieurs hectares de terrain qui traverse la vallée, qui va jusqu'en bas de la vallée, c'est bien ça?
Oui, c'est ça.
Voilà.
Tu as été là, tu as vu de la centrale,
la centrale hydroélectrique donc qui est en bas.
Ouais.
Oui.
Et jusqu'à la Baïta que c'est de l'autre côté,
oui.
Ça fait... Bon, la route pour passer de la centrale jusqu'à la Baïta, ça fait à peu près 2 kilomètres.
2 kilomètres, voilà.
De route.
Voilà. Donc,
tu peux penser, la clôture, c'est vraiment très, très grande.
Très grand, oui. Un très grand périmètre. Et ce que tu dis, c'est que dans ce périmètre, il n'y a pas de travaux.
Absolument pas.
Il y a juste, et c'est quand même beaucoup, des policiers et des militaires qui sont cantonnés.
Si.
Voilà.
Beaucoup, et vraiment beaucoup.
Et donc l'objectif de votre manifestation hier, c'était de couper le grillage.
Oui, pour démontrer que c'est illégal. C'est illégal parce qu'ils n'ont même pas demandé toutes les permissions pour pouvoir poser cet grillage.
Mmh.
Ils ont fait des choses incroyables. À la Maddalena... Il y a un site archéologique de 6000 ans.
6000 ans.
C'est néolithique.
Mm-hmm.
C'est juste néolithique.
Oui, néolithique, c'est juste.
Et c'était un point très important pour l'archéologie internationale. Et le jour de 27 juin, ils sont entrés avec une... comment ça s'appelle?
Ça s'appelle un tank.
Ouais, des blindés ou des...
Machine mécanique.
Ah non, alors
c'est des caterpillars.
Une pelle mécanique.
Oui, une pelle mécanique.
Avec une pelle mécanique, ils ont passé sur une grande pierre qui couvrait la nécropole.
Oui, la nécropole. Nécropole,
oui. Ils ont cassé la nécropole avec cette pelle mécanique. Et ils ont dit que c'était à cause de manifestants qu'ils ont cassé la pierre. C'était quelque chose d'énorme, tu peux imaginer. On l'a cassé avec la pelle mécanique et ils ont dit que c'est une autre cause. Et l'assesseur à la culture de Chiomonte,
oui.
Il a, en pleurant, il a dit c'est pas pour ça, c'est pas possible. Il a donné ses démissions.
Oui.
Elle est partie, elle ne fait plus pour protester.
Oui.
Parce que ça a été quelque chose de vraiment terrible. Ils ont cassé quelque chose qu'il avait 6000 années et sans demander rien. Il y a un tout petit musée à la Maddalena, du néolithique aussi. Et la police, il a cassé la porte et il a fait son quartier général là-dedans,
ah oui.
Sans demander rien à personne.
Mm-hmm.
C'est pour ça que l'assesseur à la culture, en pleurant, il a dit, mais personne ne m'a rien demandé, et ça c'est quelque chose de très très grave, et elle a donné la démission de suite pour protester.
Mm-hmm. Voilà, ça c'était au mois de juin. Alors, ouais. Ce que j'ai vu, c'est que hier, à la manifestation, quand vous avez coupé le grillage, il y avait un grand nombre de femmes dans la manifestation. Et on a eu l'impression, nous, que vous étiez regroupées, qu'il y avait un groupe de femmes qui, à un endroit bien particulier, avaient coupé le grillage.
Oui. On avait décidé d'être les femmes devant.
Devant.
Devant. Mmh. Parce que c'est un peu les femmes qui représentent la vie qui continue, la terre qui doit être défendue.
Mmh.
Et on a décidé qu'on devait être nous, les femmes, avec notre visage découvert. À dire, non vi vogliamo, on
vous veut pas. On vous veut pas, oui.
On vous veut pas parce que vous, là, vous êtes illégal. Et c'est, si vous êtes illégal, nous, on vous veut pas et on veut vous mandare via.
Vous faire partir.
Vous faire partir.
Oui,
merci.
Voilà.
Je suis un peu émotionnée.
Oui, puis c'est difficile, là, ça fait un petit moment que tu parles, toi, en traduisant en français, donc c'est vrai que c'est un exercice fatigant, on sait ça. Mais on te comprend très bien.
Ah, ok, d'accord, ça c'est important parce que c'est une occasion très, très importante pour nous, pour faire savoir notre raison.
Oui, non, mais on te comprend très bien.
Ah, merci.
Moi, je voulais te demander, j'ai constaté également en regardant la presse que les autorités avaient bloqué les deux voies autoroutières. Pendant toute la durée de la manifestation, en fait, ils décident de bloquer une autoroute qui rejoint la France, donc le tunnel, je ne sais plus comment il s'appelle, sous le col
du Fréjus.
Et voilà, ils bloquent l'autoroute comme ça pour pouvoir stocker les forces de police.
Ah oui.
C'est
vous
assez exceptionnel.
Vu photos, oui. Combien il y en avait.
Oui, oui, c'est bon, c'est...
Je voudrais poser une question. Est-ce que ces Denis-là, hein, on se connaît pas, mais c'est pas grave du tout. Est-ce que votre mouvement, votre lutte, ne sert pas en Italie de modèle? Et on peut s'apercevoir qu'actuellement, par rapport à ce qui s'est passé à Rome il y a peu de temps, il semblerait que la référence pour ceux qui luttent en Italie, la référence de la lutte, de votre lutte, le Val Susa, est importante. Est-ce que tu as des informations là-dessus?
Mais je sais que c'est un peu vrai, oui. Mais c'est exactement pour ça qu'ils sont en train de faire une criminalisation très très lourde sur nous. Ils ont besoin de nous absolument criminaliser et de dire des choses pas vraies parce qu'ils disent continuellement sur les journaux, surtout la télé aussi, ils disent des choses absolument pas vraies sur nous parce qu'ils se sont aperçus, c'est vrai ça, que on est un riferimento.
Une référence
pour les autres mouvements qu'ils essayent de bâtir un mouvement comme le nôtre. Mais le nôtre, il a 22 ans de vie.
L'existence, oui.
Alors, c'est bien consolidé. Et tous les autres qu'ils naissent maintenant, pour les autres, c'est plus difficile d'avoir une... On est très compacts, nous. Nous, on a un objectif qui, dans les années, il est allé aussi avant. C'est pas plus seulement le TGV. C'est quelque chose de complexif, de général, c'est sur le système. Il est grandi. Et alors, c'est vrai qu'on fait peur. On fait peur parce que on met en discussion le système politique italien. Et on a beaucoup de reconnaissement.
De reconnaissance.
Reconnaissance chez les autres mouvements qui nous demandent beaucoup de choses, comment on fait. Ils nous font beaucoup de demandes et viennent aussi à nous voir pour comprendre comment on a fait à arriver à cette à être comme si unis. On
unis.
Est vraiment très
oui.
unis et on a beaucoup de discussions, vraiment, c'est vrai, on a beaucoup de âmes et tous les âmes, ils arrivent à une... à travers les discussions, toutes les semaines, il y a les assemblées, beaucoup d'assemblées populaires, très, très participées aussi. Des fois, ce sont des assemblées qui, il y a plus de 1000 personnes. Et c'est quelque chose de spécial, ça. Et c'est un mouvement de lutte populaire. Et c'est le seul en Italie qui il a des numéros, il est si nombreux. Et nous espère que vraiment qu'il s'aperçoit que nous on peut être d'aide pour les autres. Bon, pour nous c'est quelque chose de c'est une richesse.
Oui. Et moi je voudrais aussi préciser que vous existez depuis 22 ans, vous faites un travail depuis donc autant d'années que ça, et vous avez aussi des victoires. Puisque, il y a quelques années, vous avez empêché déjà
oui.
les travaux de commencer.
Oui, dans 2005.
En 2005.
Oui.
Et donc,
dans
il y a...
j'ai dit qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, si tu veux.
Oui, alors, dans le 2005, une chose très importante que je dois dire est que quand il s'est commencé toute l'histoire contre le TGV, on n'était pas seulement le peuple. Il y avait les administrateurs.
Ah, les administrations.
L'administration aussi.
Oui.
Quand ils ont présenté le projet dans les administrations, les hommes qui font l'administration,
oui.
ils ont dit, ben, avant de prendre la compensation, parce que de suite ils sont arrivés, projet et compensation.
Oui. Compensation, ça veut dire argent.
Argent.
Voilà.
Voilà. Nous, on fait le travail et on vous donne beaucoup d'argent.
Oui.
Mais l'administration de la Vallée de Susa, ils ont été spéciales parce qu'ils ont dit, avant de parler d'argent, parlons du projet.
Mm-hmm.
Alors, de suite, ils ont commencé à voir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas très bien. Il n'était pas clair, il n'était pas normal. Et c'est grâce, merci à ça aussi, que on a pu connaître beaucoup, beaucoup de particulières sur le projet et commencer à penser que ce n'était pas vraiment quelque chose d'intéressant pour la vallée avoir ce travail et même pas pour l'Italie parce que l'argent, ce n'est pas de la vallée de Susa, c'est de l'Italie entière.
Mm-hmm.
Alors, avec l'administration, on a fait beaucoup de manifestations, de choses. Dans l'année 2005, on est arrivé, il y avait le governo Berlusconi, la droite,
oui.
alors, et ils sont arrivés au point de dire, bon, il faut commencer le travail, point de faire, il faut commencer. Et ils ont commencé à militariser la, comment dire, militariser, on peut dire?
Oui. Oui, oui.
Militariser les endroits.
Oui.
Et ils voulaient faire de, comment ça s'appelle, sondaggi. Ça veut dire essayer ce qu'il y a dans la terre.
Oui, des sondages. Des sondages.
Des sondages, oui. Et des sondages dans des lieux où ils savaient précisément ce qu'il y avait dedans, parce qu'ils avaient déjà fait l'autoroute des autres
oui,
travails.
Oui.
Et on avait compris que c'était un truc. Parce qu'il disait, ah, si on ne fait pas les sondages, l'Europe ne nous donne pas l'argent. Alors, nous empêchons ce premier sondage, corps à corps, avec notre main et notre corps,
oui.
Parce que c'était dans la montagne.
Oui.
Nous, on était sur la côté haute de la montagne,
oui.
et la police, c'était sur la côté bas. Alors, on était en vantage.
Oui.
Et on est arrivé à pas le faire passer. Et alors, toute la journée. Ça durait une journée entière de pouces et pouces. C'était quelque chose de incroyable. À 7h de la soirée, ils ont dit, bon, c'est fini, on fait pas le sondage, pour le moment, c'est suspendu. Alors, tout le monde, il est parti, et à 3h de la nuit, ils sont allés à mettre le machin pour faire le sondage.
Oui. Machine.
Oui.
La trivelle s'appelle.
Oui.
Bon, à 3h de la nuit,
oui, sûrement.
Comme les voleurs, ils sont allés. Depuis ce jour-là, ils ont militarisé l'endroit, c'était deux pays, pour 45 jours. Pour entrer dans les pays, les habitants, ils devaient faire voir le document pour sortir, pour aller à l'école.
Oui.
Pour aller à l'école, les enfants, ils devaient passer avec quelqu'un qui faisait voir le document, l'identité.
Oui.
Et a été quelque chose de... C'était la honte. Ensuite, ils ont décidé de commencer le chantier à Venaus.
Mm-hmm.
Venaus,
c'est un village un peu plus bas.
Et ils ont commencé à faire de clôtures. Et nous, on a commencé à faire des barricades.
Mm-hmm.
Et on a fait la Libre République de Venaus aussi.
Oui.
Et les barricades là-bas sont durées presque 15 jours. Après, je ne rappelle pas plus bien 13, 16 jours, je sais pas. Et après, vu que nous, c'était hiver, c'était très très froid, et ils ont vu que nous, on ne renonçait pas, on était toujours là, beaucoup, mais beaucoup de monde, toutes les nuits, il y avait 500 personnes, tous les jours à travailler et la nuit à faire les barricades sous la neige, le jour de la nuit, entre les 5 et les 6 décembre, ils sont arrivés la nuit.
Oui.
Quand on dormait. Et on dormait dans les tentes en plein hiver. Et ils ont commencé à frapper. Ils ont frappé les personnes qui dormaient dans leur tente.
Oui.
Quelque chose de fasciste, je sais pas, il n'y a pas de mots pour expliquer ça.
Mm-hmm.
Et ils ont blessé beaucoup, beaucoup de monde. Et il empêchait aussi les ambulances,
oui.
Arriver à prendre le blessé. Quelque chose d'incroyable, même pas dans le pire film, on peut penser quelque chose comme ça.
Mm-hmm.
Mais nous, on l'a vécu. Et ça, là, était le 6 décembre, le 8 décembre. Ah bon, le jour après, pour deux jours, tout le monde... comment s'appelle le sciopero, c'est la grève générale dans la vallée.
Oui.
Spontanée,
oui.
Oui, les écoles, les usines, les magasins, tous dans les routes. On a bloqué pour deux jours l'autoroute, les statales, toutes les routes pour deux jours. Et le 8 décembre, que ça a été deux jours après, c'était fête en Italie. Et on est allé, on était tellement beaucoup, mais vraiment, presque, ils ont dit qu'il y avait 90 000 personnes, quelque chose d'énorme. On est allé vers le clôture où ils voulaient commencer le chantier, et on l'a repris, tranquillement, même pas avec une pierre lancée, rien. On l'a repris. Et avec le peuple, on a repris le chantier. Mmh. Et là, ils ont décidé de changer de tactique. Ouais. Et ils ont commencé, ils ont fait une, ça s'appelle Osservatorio Tecnico. Ça veut dire une table pour écouter toute notre raison. Ça durait presque 4 ans, cet observatoire technique, mais c'est déjà parti mal, parce que notre raison, c'était de considérer si on devait le faire ou si on pouvait pas le faire. Il y avait les deux possibilités. Ils sont partis seulement quand on a considéré la possibilité de comme le faire.
Pat, oui. Il va falloir qu'on arrête là pour aujourd'hui. Je te propose que de toute façon, on en reparle dans une prochaine émission. Ça serait de toute façon... On va rester en contact, mais parce que là, il va falloir qu'on rende l'antenne dans quelques minutes. En tout cas, on te remercie beaucoup pour ce témoignage, et j'espère que ça va inspirer pas mal de gens pour les luttes. Déjà à vous rejoindre, à rejoindre le mouvement Notav, et pourquoi pas le mouvement anti-nucléaire pourrait s'inspirer de cette stratégie.
Et tu merci raccroches pas, je viens te reprendre au téléphone. Okay.
Merci okay. Encore.
A tout de suite.
Les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les maintenus, seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce, d'une logique de la rationalité du capital. La globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout. On non la considère pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes, ils sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Moi, je vous propose de vous retirer, maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions. Et vous retirez sur le côté, gentiment. Monsieur, comme ça, il n'y aura pas de violence, en tout cas pas de
inconvénient. J'attends les ordres.
Allez, bonsoir, c'est Dérigor, chaque semaine sur l'Écho des Garrigues de Montpellier, Canal Sud à Toulouse et Radio Primitive sur Reims, et aussi sur le site de l'OC Libertaire. Chaque semaine, donc, Dérigor, une parole anarchiste communiste.